Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de pouvoir aujourd'hui remercier Dieu, apprécier tout ce qui a été fait pour les enfants, pour les ados tout au long de l'année. Et c'est vrai que c'est une équipe qui travaille un peu dans les coulisses. Il y a aussi les plus petits, la garderie, et puis l'école du dimanche, les ados. Et ces enfants ne nous quittent pas, en fait, ils vont juste monter vers un autre groupe. Heureusement, ils vont rester avec nous dans les années qui viennent. On l'espère en tout cas, les ados et les jeunes restent avec nous parce que nous sommes une famille, nous sommes une communauté où nous sommes en quelque sorte grands frères, grands sœurs, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs, tous ensemble dans une même famille. Mais il y a deux adultes qui vont nous quitter cet été et je pense particulièrement à Hélène qui a passé cette année avec nous en train d'étudier à l'IBB. Hélène qui a lu le psaume tout à l'heure. Bien appréciée pendant cette année, elle s'est beaucoup investie auprès des jeunes, auprès des femmes dans l'Église. Et elle a bien étudié aussi à l'IBB, elle a réussi ses études très bien cette année. Donc on est triste de la voir partir, mais que Dieu t'accompagne dans ta nouvelle vie en France et ton nouveau métier. Mathieu aussi, notre frère suisse qui a passé 2 ans avec nous. Alors lui ne quitte pas Bruxelles, il va continuer sa 3e année à l'IBB l'année prochaine, mais il sera dans une autre église, il sera en train de servir le Seigneur toujours, mais dans une autre église. Et donc nous le remercions aussi pour le travail effectué, ton sérieux, ta capacité relationnelle et ta bonne volonté. Merci beaucoup, frère, pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais je suis content maintenant de pouvoir écouter Jésus. Il était là avec les 11 disciples, souvenez-vous, Judas était déjà parti, ils étaient ensemble réunis. Et Jésus voulait les préparer pour la vie chrétienne, la vie que nous connaissons, nous qui vivons après la Pentecôte. C'était la veille de la mort de Jésus. Il leur a parlé de manière assez intense, assez longue, et grâce à l'Esprit de Dieu, les disciples se sont souvenus de tout ce que Jésus leur avait dit. Jean, un de ceux qui étaient là dans la salle, a bien voulu écrire après ce que Jésus avait dit. Il a retenu cela. Pour que ce disciple fidèle aimé puisse nous encourager à être des disciples fidèles et aimés par Jésus. Alors nous les entendons ce matin comme si nous étions dans la salle avec eux. Par le Saint-Esprit, Jésus est présent auprès de nous. Ses paroles sont là, on va les entendre. Donc ça va être comme si on était là à l'époque, parce qu'il nous enseigne. Et nous allons essayer de comprendre dans ces paroles que nous allons lire aujourd'hui, comment le Saint-Esprit nous aide. On a déjà annoncé que Jésus avait déjà prédit la venue du Saint-Esprit. Et on a déjà commencé à comprendre que le Saint-Esprit joue un rôle. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre en quoi il nous aide. À quoi ça sert, quelque part, d'avoir le Saint-Esprit. Il nous enseigne, il est un défenseur, il est l'Esprit de vérité. Et nous allons voir comment il agit quand les circonstances sont difficiles. Lisons, sans plus attendre, Jean 15, et je commence la lecture, verset 18, c'est toujours Jésus qui parle. Jean, chapitre 15, verset 18. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous déteste. » Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc nous prions, Seigneur notre Père, veuille bien parler aujourd'hui par ton esprit, que nous puissions contempler la gloire de Christ, que personne ici ne reste sans être changé, transformé par ce que nous avons entendu de toi. Amen. L'Esprit nous aide de trois manières. L'Esprit nous aide, premièrement, lorsque nous sommes détestés. Quand nous sommes détestés. Le verset 18 nous choque, n'est-ce pas ? Il parle du fait que le monde vous déteste. Jésus a tant parlé d'amour. J'étais content que William, la semaine passée, ait voulu prêcher dans l'évangile de Jean. Il a parlé de l'amour de Dieu. Verset 9, Jésus dit « Moi aussi, je vous ai aimé ». Verset 10, « Vous demeurerez dans mon amour ». Verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Verset 20, verset 17, « Vous aimez les uns les autres ». Et brusquement, il commence à parler de haine. C'est quand même un changement. Il parle de persécution, verset 20. Même de mort, chapitre 16, verset 2. Les ados, ce que les ados ont dit, c'était magnifique. Mais Véronica choisit de parler de la persécution, c'est tout à fait juste. Jésus a annoncé cela, ça se réalise aujourd'hui dans le monde. Alors, Jésus savait qu'il n'y avait pas que des choses agréables à dire. La vérité incomplète est une demi-vérité. C'est un bon test, n'est-ce pas, de ceux qui se disent porte-parole du Seigneur lorsqu'ils annoncent un message. Est-ce qu'ils annoncent que des choses agréables ? Ou est-ce qu'ils osent aussi dire avec courage et clarté des choses difficiles, désagréables, qui ne sont pas populaires ? Parce que Paul nous a prévenu qu'il y aura une foule d'enseignants pour dire des choses agréables, des choses que les gens veulent entendre. Mais seuls ceux qui sont à Christ, seuls ceux qui appartiennent au Seigneur disent la vérité, même quand c'est désagréable. On pense à Joseph, n'est-ce pas, dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez qu'un jour, Joseph, il avait rencontré deux personnes qui travaillaient pour le roi Pharaon en Égypte. Un d'eux pourvoyait le vin, l'autre pourvoyait le pain au Pharaon. Et Joseph a interprété les rêves des deux. Dans un cas, c'était un rêve positif, il allait être rétabli. Dans l'autre cas, c'était un rêve négatif, il allait être mis à mort. Mais Joseph a dit les deux choses. Il a dit la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle, avec fidélité. Alors, nous sommes aimés par Dieu, c'est vrai. Oui, nous sommes aimés par le Seigneur Jésus. Nous sommes aimés par les chrétiens, du moins j'espère, on est aimés par les chrétiens, parce qu'on met cela en pratique, nous aimons les uns les autres. Et Jésus a dit tout cela, et merci Seigneur, c'est vrai. Nous en avons besoin, nous apprécions cela. Mais le revers de la médaille est que nous sommes détestés par ceux qui détestent Christ. Le monde m'a détesté avant vous, dit Jésus. Ils m'ont persécuté. Ils vous feront cela à cause de moi. Toby Alderweireld est un footballeur anversois qui a joué aussi en équipe nationale. Il termine la saison avec son club, l'Anvers. Et il joue pour le titre face à Genk. Genk est en train de gagner le titre jusqu'à la dernière minute. Leurs supporters sont dans la joie. Supporter de Genk. Mais Alderweireld marque le but qui va tout changer. Anvers devient champion. Genk perd. Histoire dramatique et vraie de la fin de saison. Alors, est-ce que Alderweireld est apprécié par tout le monde? Ben non, les Anversois sont réjouis. Ils l'aiment. Ils le célèbrent. Mais en face, les supporters de Genk, ben pour eux, c'est l'homme le plus détesté sur le terrain et dans le stade. Alors, nous aimons Jésus, il est notre champion. Et c'est clair, tous les chrétiens se réjouissent de Jésus, mais en face, tous ceux qui ne l'aiment pas, ils ne nous aiment pas non plus. Attention, le monde a toujours eu de l'opposition à Dieu. Mais il n'y a pas que de l'opposition. Parfois, le monde est décrit comme étant prêt à suivre Jésus. Jean 12, 19 et 17, 21 parlent du monde qui vient suivre Jésus. Et ça se passe aussi. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y a que de la haine qu'on va vivre 24 heures sur 24 de tout le monde. Non. Mais plutôt, il y a un si. Si le monde vous déteste, verset 18. Si ça arrive, eh bien, on ne devrait pas être surpris. On devrait comprendre que cela est raisonnable. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Tous n'ont pas persécuté Jésus, mais il y en a qui l'ont fait. Ce qui est tellement dommage, mes amis, c'est que nous aimerions bien avoir l'amour des deux côtés, n'est-ce pas? On aimerait bien être aimé par Dieu, Jésus, et aimé par le monde. On aimerait bien qu'on soit populaire avec tout le monde, que tout le monde dise « oui, oui, c'est bien, t'es un chic type ». C'est pas possible, malheureusement, d'être populaire sur toute la ligne. Hier, j'étais à un mariage, et à un mariage, ils se sont dit oui. C'est toujours la question principale, n'est-ce pas? Ils se sont dit oui. Mais le pasteur a dit au couple, quand tu as dit oui, il a dit à la mariée, quand tu as dit oui à ton mari, tu dis non à tous les autres. Puis il a dit au mari, toi tu as dit oui à ta femme, tu dis non à toutes les autres. Lorsqu'il y a un oui, il y a aussi un non. Et c'est pareil avec Dieu. Si nous disons nous voulons aimer Dieu, alors nous disons non au monde. Jacques dit dans sa lettre que l'amour du monde est adultère envers Dieu. On ne peut aimer que Dieu et être aimé par Dieu et pas aimer le monde et être aimé par le monde. Vous comprenez? C'est un choix entre l'un ou l'autre. Et pour les chrétiens, c'est déjà trop tard. Parce que le verset 19 dit « Vous n'êtes pas du monde. C'est fini, la vie avec le monde. » C'est vrai que nous grandissons ici, nous allons à l'école, nous sommes entourés par le monde, il y a ces valeurs qui sont autour de nous, mais quand nous croyons en Christ, le monde a été crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Et du coup, ceux qui s'opposent à Christ s'opposent à nous. Ceux qui ont de la haine pour nous, ce n'est pas parce que nous sommes évangéliques, mais c'est parce que nous représentons Jésus qu'ils détestent. Pourquoi y a-t-il des gens qui détestent Jésus? Ils détestent Jésus et son Père, dit le verset 23. Même s'ils prétendent connaître Dieu et croire en Dieu, ils détestent Jésus et détestent Dieu. Et au verset 25, il dit « Ils m'ont détesté sans raison ». Il n'y a pas vraiment une raison pourquoi on déteste Jésus. Ce n'est pas logique de détester Jésus, le Fils de Dieu, le seul bon berger, le Sauveur, le Seigneur. Et pourtant, ils l'ont détesté sans raison. Et donc, au chapitre 16, il dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Merci Seigneur, il nous a prévenus. Merci Jésus, tu n'as pas caché ces choses. Tu as annoncé clairement que ça allait venir pour que l'on ne soit pas surpris. Merci Seigneur pour cette gentillesse de sa part. On vous exclura des synagogues, verset 2. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils le feront comme si c'était pour Dieu. Et on pense à Étienne, le premier martyr. On pense aux disciples, Jacques, Simon-Pierre, tués pour leur foi. On pense à tous ces martyrs depuis, y compris les deux qui ont été mis à mort il y a 500 ans à la Grande Place, ici à Bruxelles. Et on pense à Jésus, qui a été crucifié. Les chefs religieux le voulaient, les Romains l'ont exécuté. Beaucoup de gens ont haï Jésus. Cela ne doit pas nous surprendre. Parce que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous avez remarqué comment on traite les ambassadeurs, les représentants d'un pays lorsqu'il y a un conflit avec ce pays. On ne peut rien faire contre le chef d'État, mais c'est l'ambassadeur qui est exclu du pays, qui est expulsé le premier. On s'attaque d'abord aux représentants. On traite le représentant pire qu'on représente, qu'on traite le chef. Et c'est comme ça, avec ce qui représente Jésus. D'ailleurs, Jésus l'avait déjà dit avant. On va juste regarder un autre texte dans Matthieu chapitre 10 pour voir un autre moment où Jésus a dit des choses un peu pareilles à ce que nous venons de lire. On va ensuite revenir sur Jean 15, mais Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 17. Jésus dit « Méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leurs synagogues. À cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs et devant des rois pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus n'a pas dit cela de manière vague, où c'est vraiment difficile à comprendre ce qu'il a dit. Il n'a pas mis en bas de page, juste au cas où. Il a dit clair, haut et fort, pour qu'on sache, si on veut être avec Jésus, on sera aimé de Jésus, mais il y aura de l'opposition dans le monde. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, en Belgique, aujourd'hui, au XXIe siècle, ils sont rejetés par leur famille, ils sont rejetés par leurs amis, ils sont rejetés par leurs proches, parce qu'ils s'identifient à Jésus. Alors quelqu'un dira, oui, mais ça c'est une bien triste nouvelle, nous sommes venus ce matin pour nous réjouir ensemble, être encouragés, et tu nous dis qu'il y aura plein de gens qui vont se tourner contre nous. Ah, mais merci. Quelle aide y a-t-il ? Si les choses sont si difficiles, si nous sommes détestés, bien l'Esprit de Dieu, il est appelé le défenseur au verset 26. Mais cette expression qui est traduite, le défenseur, c'est un mot riche de sens et qui signifie aussi le consolateur. Il nous réconforte. Le mot qui est la racine du consolateur, verset 26, est utilisé plus loin dans la Bible pour parler de réconfort. Paul dit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors lorsque les amis vous feront tomber, lorsque vos parents vous critiqueront, peut-être que votre conjoint avec qui vous passez votre vie ne sera pas du tout d'accord avec votre foi. Des propos peuvent être vraiment réellement blessants. Ben, heureusement, nous avons le Saint-Esprit parce qu'il est notre consolateur, il va vous consoler. » Dans vos détresses, nous avons le Saint-Esprit quand les gens nous détestent. Mais deuxièmement, l'Esprit nous aide à parler. L'Esprit nous aide à parler. Vous avez entendu dans la lecture, Matthieu, qu'il va nous aider à parler, il va vous aider à parler. Et ici, en Jean 15, verset 26, quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, qu'est-ce qu'il va faire, l'Esprit de la vérité ? Il rendra témoignage de moi et vous aussi, vous me rendrez témoignage. Ça, c'est formidable. Lorsque nous devons parler et nous nous sentons intimidés parce que nous disons nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas beaucoup d'expérience, nous ne savons pas très bien argumenter. Le simple fait que nous pouvons dire « Je suis avec Jésus, j'ai ma petite vie avec Jésus, j'ai mon parcours avec Jésus », c'est le Saint-Esprit qui nous fortifie pour pouvoir parler de lui. Vous voyez, le Saint-Esprit ne vient pas faire un truc à part. Qu'eux, ils sont en train de parler à la Pentecôte, et puis le Saint-Esprit, il est en train d'agir autre part. Le Saint-Esprit est venu à Jérusalem auprès des apôtres pour qu'ils puissent parler de Jésus. Et ça se répète en acte 5. Il dit ceci en acte 5. « Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et puis, nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné. Les disciples sont en train de témoigner et le Saint-Esprit est en train de témoigner en même temps. Et quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il parle, il annonce la parole de Dieu avec assurance. En acte 8, une grande persécution éclate contre les chrétiens. Et que se passe-t-il ? Les gens sont dispersés, mais là où ils étaient dispersés, ils allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Le message se propageait à partir de Jérusalem. L'Esprit a aidé les chrétiens à exprimer clairement leur foi. Ce que Jésus a annoncé ici, ça s'est réalisé. Et ça se réalise encore aujourd'hui. Ce qui est formidable, c'est que ce mot, verset 26, le défenseur, ça, à nouveau, c'est cela, mais ça peut aussi exprimer l'idée de quelqu'un qui parle pour nous. Si vous avez un tribunal, ben aujourd'hui, généralement, nous demandons que quelqu'un soit notre avocat, l'avocat de la défense. Mais à leur époque, ce qu'ils avaient, c'était quelqu'un qui venait, qui était un peu un avocat de la défense, qui parlait pour toi, qui t'accompagnait, qui parlait pour toi, qui pouvait rendre témoignage de ton bon caractère et de ta vie. Vous pouvez parler dans ce tribunal. Et c'est ce mot-là qui est utilisé aussi pour décrire l'Esprit de Dieu. Alors nous pouvons compter sur notre expérience personnelle de Jésus. Pensons à comment parler de notre foi. Quelles seront les opportunités que nous aurons cette semaine? Peut-être un collègue te demandera, mais qu'est-ce que tu fais dimanche matin? Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais au téléphone? Et nous pourrons simplement leur dire ce que Dieu a changé dans notre vie, ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que vous êtes capable d'articuler cela? Que le Saint-Esprit nous aide. Revenons à nos disciples, chapitre 16, versets 6 et 7. Les disciples étaient tous tristes. Jésus le dit, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit, nous avons vu, sera notre consolation. Ici, nous voyons que l'Esprit sera notre aide pour le témoignage. Et ensuite, l'Esprit nous aide car il convainc le monde. C'est la troisième chose que l'Esprit fait pour nous. Je sais que c'est difficile de se concentrer un jour où il fait si chaud, mais restez avec moi. Trois choses aujourd'hui. Troisième chose, c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde. On a dit que l'Esprit est l'avocat de la défense, mais voici qu'il est le procureur, c'est-à-dire l'avocat pour attaquer et dire le mal que font le monde. Il expose l'erreur du monde. Il rappelle sa faute pour appeler à la repentance. Nous ne pouvons pas faire cela sans l'Esprit. Nous pouvons parler. Nous pouvons dire les vérités merveilleuses de Dieu. Et ça n'a pas d'effet. Nous pouvons attirer l'attention sur le péché, dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. En toute humilité, nous avons tous fait les mêmes choses. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais le péché est une offense contre Dieu. Et lorsque nous disons cela, parfois, les gens ne sont pas affectés. Oh, ils disent « c'est pas grave ». Ça ne me fait rien. Bon, tu peux croire ça si tu veux. Et on a envie que Dieu fasse quelque chose. Mais c'est seulement quand l'Esprit de Dieu agit à l'intérieur des gens qui vont dire « Ah oui, c'est vrai. Je reconnais ma faute, j'ai besoin d'un sauveur. » Quelle aide nous avons. Qu'est-ce que c'est précieux de voir ce verset 8 qui dit que quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et puis il va expliquer. Au verset 9, « Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » J'aime bien les courtes phrases. Et dans une courte phrase, là, Jésus résume l'essentiel du péché. Ne pas croire en Jésus. Ne pas croire qu'il est capable de sauver. Ne pas croire qu'il est digne de régner. Croyez en Christ. Dans notre péché, nous régnons nous-mêmes sur notre vie en disant « Je suis bien comme je suis. » Quelle erreur ! Monumental. Et puis la justice, parce que je vais vers mon Père. En fait, pour savoir comment vivre de manière juste, on a besoin d'une référence. Et Jésus est la référence, parce que lui nous a montré comment vivre de manière juste. Mais s'il s'en va, on ne saura pas exactement comment vivre de manière juste. Le point de référence n'est plus là. Donc l'Esprit nous renseigne. Et il dit, vous ne me verrez plus. Vous vous souvenez qu'il avait dit après sa résurrection, vous me verrez ? Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Ici, il est en train de dire, ben, vous ne me verrez pas parce que Jésus sera auprès du Père après son ascension. Et l'Esprit donc vient, et l'Esprit agit. Il va convaincre aussi du jugement. Il y a un jour que Dieu a fixé où il jugera les vivants et les morts par la personne qu'il a désignée, Jésus. Et quand nous annonçons cela, c'est parfois un sujet de moquerie. Il y a des gens qui font des blagues autour de ça. et puis on a besoin du Saint-Esprit pour qu'ils puissent vraiment les convaincre du fait qu'ils vont certainement être jugés, de saisir à quel point nous sommes perdus, de saisir à quel point nous n'avons pas d'espoir si nous n'avons pas Jésus comme sauveur. Mes amis, avant de pouvoir nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous sauver, nous devons toucher le fond. Cette semaine, une opération de sauvetage a préoccupé nos médias, n'est-ce pas ? Cette opération n'a pas abouti, en partie parce que tout s'est passé très vite. Mais parfois, pendant de longues années, quelqu'un entend qu'ils sont en danger. Ils entendent qu'ils doivent chercher le secours et ils ne font rien. Alors nous devons regarder honnêtement notre situation ce matin. Où en sommes-nous ? Sans Dieu, avouons honnêtement, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nos mauvaises œuvres sont trop nombreuses. Même nos bonnes œuvres que nous essayons de faire sont impures. Et nous ne pouvons pas enlever le poids de nos péchés. Nous ne pouvons pas monter jusqu'à Dieu. Nous sommes morts. Tout ce que nous pouvons faire, c'est un appel au secours. Que Dieu, qui est tout-puissant, qui est là en haut, qu'il puisse nous entendre et vite, vite agir pour nous sauver, pour nous libérer, nous faire vivre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait prêt à le faire. Il veut le faire. Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne vient pas au secours des gens parce qu'ils sont riches, ou parce qu'ils sont hommes, ou parce qu'ils sont blancs. Il sauve tous ceux et toutes celles qui le demandent. Mais un appel au secours doit être exprimé de notre cœur, de notre bouche. Faites appel à Dieu tant qu'il est prêt. Sinon, vous restez là. Avec le verset 8, le péché, la justice que vous n'avez pas et la certitude du jour de jugement pour lequel vous n'êtes pas prêt et où vous serez condamné. Pour le souligner, Jésus dit, verset 11, le prince du monde est déjà jugé. Il y aura une étape ultérieure où le diable sera enlevé du monde et détruit, mais déjà, le jour où Jésus meurt, il est jugé coupable, le diable. Il sera jugé perdant, condamné. Et nous pouvons le savoir déjà. Et donc, ceux qui sont les plus puissants aujourd'hui n'échapperont pas au jugement de Dieu. Alors, c'est facile de critiquer, n'est-ce pas ? On peut regarder les autres et dire, ben, il y a toujours quelqu'un de pire que soi. Mais la mesure de Dieu est sa propre perfection. Nos petits jeunes ont fait des examens récemment, et vous savez que vous n'allez pas vous féliciter si vous avez eu 49%, plus que celui qui a eu 30%, parce que c'est quand même un échec. Et nous devons prendre le temps aussi pour reconnaître nos fautes. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu demande. Prenons ce temps pour reconnaître cela et être sauvés. Mais je veux terminer quand même avec un mot pour ceux qui sont là, deux mots pour ceux qui sont là et qui appartiennent déjà au Seigneur par la foi en Jésus. Nous avons aussi à apprendre à partir de ce texte deux choses pour terminer. D'abord, nous ne devons pas être découragés. Malgré qu'il y aura de l'opposition de certains non-chrétiens que nous aimons, malgré la mise à l'écart du point de vue chrétien que nous voulons quand même recommander, que les gens disent « Oh non, c'est pas important, c'est pas grave, c'est pas vrai », malgré la difficulté de rendre témoignage, de nous faire entendre dans ce monde, et malgré le défi de convaincre les gens de la véracité de ce que nous disons, ben, l'Esprit est là. L'Esprit est un consolateur, il est notre défenseur. Nous avons un procureur qui permet aux autres de se rendre compte de leur situation. C'est pourquoi aussi il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Notre rôle est de dire les choses, bien sûr, avec franchise, avec honnêteté, dire les choses comme elles sont devant le Seigneur, concernant le péché, par exemple, ou le jugement. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de saisir les gens. C'est d'impacter les gens. Et lorsque nous n'arrivons pas à le faire, nous ne devons pas nous décourager, et nous ne devons pas insister en disant « Mais allez, écoute, 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 écoute !» On a dit ce qu'on a à dire, on a dit ce que le Seigneur nous a donné à dire, maintenant que Dieu utilise cela. Et on ne doit pas faire pression sur les gens. Le Saint-Esprit est là. Si nous croyons en lui, nous croyons qu'il va produire l'effet de sa parole, et nous ne devons pas insister par nos moyens humains pour dire, allez, écoute, 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 réagis, entends. Non, c'est le Seigneur qui agira. Sachons donc faire confiance à l'Esprit et comptons sur lui dans la prière pour notre témoignage. Il est là pour ça. Verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Donc je vais prier. Notre Père, nous te remercions pour ce discours de Jésus qui continue, qui continuera la semaine prochaine, si c'est ta volonté. Mais nous voulons aussi saisir ce que tu nous as dit aujourd'hui. Oh Seigneur, comme nous sommes dans le pétrin sans toi, perdus dans nos égarements, condamnables, pourtant, merci que tu es prêt à nous sauver. Merci que celui qui démontre notre péché et nous accuse est aussi celui qui nous amène vers celui qui peut nous sauver, Jésus-Christ, et qui est alors notre avocat pour nous défendre devant toute accusation. Merci que nous pouvons être aujourd'hui libres de la culpabilité, secourus par ta bonne main puissante et vivre dans ce monde avec confiance, parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.